3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Parlons Trek. Donc aujourd'hui, 25 janvier 2018, on s'est gâté avec un nouvel épisode de Discovery. Et toujours en aussi bonne compagnie, on va analyser ça ensemble sur toutes ses coutures. Mais avant tout, on va vous présenter un co-animateur, donc Marc, mon cher fidèle et très bon ami. Ça va bien?
Oui, ça va très bien, toi, mon cher JP.
Ah, pas pire. Ça, c'est tranquille.
Tranquille. Oh.
C'est juste tranquille. Je suis accompagné, évidemment, vous l'aurez peut-être entendu, de Dom, aka Waldo.
Oui, c'est moi!
Ça va bien, Dom?
Toujours très bien.
C'est tellement hot d'avoir un Dom avec un bon micro.
Oui, je me suis... J'ai investi dans notre business.
Business. Tu parles comme si tu faisais un profit, là.
Ben oui, ben, vous le savez, j'ai un GoFundMe au nom du podcast.
C'est ça, t'as réussi à te payer un casque.
Il a demandé à sa blonde, puis c'était
pour... C'était ça.
C'était OK.
Aïe. Donc, jour et nuit. Part de ça, ben... demain, nous autres, on s'achète nos fameux billets pour Vegas, donc
Vegas.
On continue de vous en parler. Je continue, mais en même temps, c'est le fun. C'est comme la outre t'as Ticonderoga qui est la mec avec les décors, puis comme ce qu'on peut worshiper Star Trek de façon physique. Mais Vegas, c'est là où on va rencontrer le cœur du fandom de Star Trek, c'est-à-dire les gens en tant que tels. Pas qu'il n'y a pas de gens en Ticonderoga, mais c'est sûr qu'on va rencontrer une masse critique de Trekkies là-bas. C'est ce qui m'enthousiasme le plus.
Surtout qu'on va essayer de rencontrer en personne Cole Maney.
Oui, entre autres.
On va le rencontrer. On n'essaiera pas. On va le rencontrer. On va prendre une
dizaine
brosse. De bières. Ouais, ça. Une dizaine de bières parce que. Ouais, une dizaine. Ben, peut-être 2-3. Ça va dépendre de comment il file.
S'il nous invite à tous ses parties, il n'y a pas de trouble.
Il n'est plus aussi jeune qu'avant, faut se le dire. Là.
C'est pas grave.
Ben, c'est un Irlandais. On est capable d'en prendre. C'est Miles. C'est le chief, il est capable d'en prendre.
Ben d'ailleurs, j'avais lancé comme idée de lui faire autographier une des planches de la BD O'Brien at Work ou une couple de...
Ou notre BDN.
Sacrement, non. Faire autographier une caisse de Guinness.
Oui.
Ou encore, ceux qui ne connaissent pas, il y a une page qui s'appelle Roddy Doyle's Star Trek. C'est sûr qu'il faut être plus familier avec le langage irlandais et le...
Oui, parce qu'ils écrivent avec l'accent irlandais.
Ouais, avec la phonétique irlandaise, mais en même temps, moindrement que tu regardes un peu là, les programmes britanniques où tu regardes, comment ça s'appelle, l'espèce de petite vie mais irlandaise, là, Madame, Mrs. Brown, là. Tu vas en comprendre une couple, j'ai bien l'impression. Même moi, je suis capable. Je commence à être capable de déchiffrer tout ça. Là. Fait que soit une des planches d'O'Brien at Work ou faire une page avec rassembler une couple de mes mimes préférés de Roddy Doyle puis lui faire autographier ça puis ensuite mettre ça sur un mur. Là. Peut-être les mimes les moins offensants, peut-être. Là.
Les gars, je viens d'avoir une super idée.
C'est-à-dire?
On se fait des autographes sur notre corps et on va chez le tatoueur après.
Non, sacrement non, merci.
Moi, je dis pas non.
Non, mais j'ai... Moi, il me fait signer Jerry Ryan sur moi. Je serais heureux.
Ouais, non, je...
Marina Sirtis aussi, j'aimerais ça qu'elle me touche.
T'es un petit peu creep, mais en même temps, c'est pas. C'est plus dans la manière que tu le dis que dans l'intention, Marc, je pense.
Ouais, mais c'est... Tu vois, on va aller à Vegas juste pour être creepy, là. On va
non,
les...
non, non, non,
on va les stalker, on va se cacher dans des coins, rire tout seul, quand on va les voir.
Ça vous fait dur,
ils vont sauver.
Après ça, on va se faire mettre dehors.
Mais vous dites ça pour les autographes sur le corps. J'ai vu ça quand j'ai été assistant.
Ah oui, ça
pour, j'avais été assistant pour une couple de vedettes de Star Trek à l'époque au Comic-Con de Montréal puis d'Ottawa. Puis j'ai vu ça une couple de fois, là, fait que... je pense ouais. que j'avais surtout vu là, je pense que j'avais vu avec Michael Dorn puis LeVar Burton. Je suis pas trop sûr, ça fait longtemps là, mais c'est pas que ben, puis en plus Vegas c'est comme une place de tatoueur, tu peux trouver un tatoueur à tous les trois coins de rue là-bas là.
Ouais, mais moi ça me dérangerait pas de le faire, moi personnellement là. Moi je suis pas ouais. vraiment vierge de tatou là.
Ben, ouais, non, pas, ça... mais pas... j'aimerais que ce soit quelqu'un, moi personnellement ça serait quelqu'un d'autre là.
Oh, Brian.
Je sais pas qui encore. Ouais, mais. Tu sais, il n'y a pas juste Star Trek à l'envie.
En effet. Ouais, mais.
Dommage que Pike est mort.
Oui, il y aurait. Probablement, mais ça, avec un beau petit Team Pike, juste en dessous d'après, là.
Ouais. C'est vrai, il faut que je mette ce que tu nous as fait comme cadeau sur mon sac.
Ouais. Faudrait que je sois quelque part dans mes sacs, justement. Faut que je déniche ça. Je vais me faire un jacket avec tous les patchs que Dom, puis. Ok, ben je sais pas si je l'avais mentionné la semaine passée, Yann m'a envoyé des belles patchs de Enterprise par la malle. Fait que gros merci Yann. Fait que je vais falloir trouver un jacket pour ça là. Fait que.
Il est gâté ce JP là.
Ah ben ça a l'air que hein.
Il y en a qui sont ils ont leur préféré.
Ouais. On va s'arraper, Yann Labrosse.
Ouais, on va s'arraper, on les amènera pour danseuse.
En tout cas, à Vegas, il va bien porter son nom Labrosse parce que j'ai l'impression qu'on va en faire plus qu'une.
Je pense.
Oui, mais j'espère juste pas aussi intense que celle qu'on a faite à Ticonderoga.
Ticonderoga, comment on c'est un bébé brosse qu'on avait faite là-bas, là.
Non, je sais pas pour toi, mais c'était le mélange puis tout, là. On est pas des malades.
Ouais, mais on va redemander à Stewart.
À Stewart.
Je pense que c'est lui.
Non, mais je pense que Stewart a vraiment aimé ça, je pense. Plus
oh,
que
non,
c'est.
T'as laissé une très bonne impression sur Stewart. C'est
je pense que c'est ça. The Love Guy.
Donc, pour en revenir sur des sujets un peu plus tréquiens. On vous parlait la semaine dernière qu'après Discovery, on voulait peut-être faire une partie de jeu de rôle basé sur le livre de Star Trek Adventures. Ben moi et Pierre, on a commencé à regarder ça tranquillement hier. Et non seulement ça, mais bonne nouvelle, c'est que les feuilles de personnages sont disponibles gratuitement sur le site Roll20. C'est un outil qui permet de jouer à des parties de jeu de rôle en ligne. Donc, il y a des outils pour placer des tuiles, des petits personnages, des tokens, puis tout mesurer ça avec un chat, puis un système de roulement de dés. Donc, tout est intégré. C'est vraiment super bien fait. C'est vraiment fait pour faire des parties de jeux de rôle en ligne, de façon virtuelle. Et donc, Modifius a fait un petit partnership avec Roll20 pour non seulement y intégrer les feuilles de personnages, mais aussi y intégrer les tuiles de vaisseaux. Donc le pack, il y a un pack qui s'achète au prix de 9,99$.
C'est
bien cher. Ben, pour le plaisir que ça va nous donner, ce sera pas tant... C'est pas tant payé que ça.
Yeah, je me jette des jeux à 120$ sur Steam.
C'est ça. Donc, ça va être le fun, mais justement, fait que j'ai pointé ça à Pierre hier, fait que on va commencer à regarder la plateforme. On a encore une couple de semaines. Deux geeks sur un projet de même, ça devait pas être trop difficile. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Difficile peut-être pas, mais ça peut prendre du temps à aboutir.
Ouais. Est-ce que vous avez pensé à des personnages que vous allez pouvoir vouloir jouer là-dedans?
Moi, j'avais pensé à un crewman sans name avec un gilet rouge.
Ben, je l'ai rouge, j'ai commande. Ben, Pierre me disait qu'il voulait faire quelque chose dans le. Tu sais, dans l'époque, saison 1 ou 2 de Deep Space Nine, là. Fait que c'est.
Deep Space Nine, un personnage Bajoran, no name qu'on voit jamais.
Tu veux pas jouer, dis-moi là, là.
Ah, oh, ok, pour... faut qu'on joue.
Ouais, 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 là, c'est pour jouer, là. C'est sérieux, là.
Ok.
Alors, moi, je veux absolument jouer.
Oui.
Moi, je veux absolument jouer Chief O'Brien.
Et toi, Dom, t'as-tu une idée plus, t'as-tu une idée plus moins niaiseuse?
Ben, oui. C'est clair.
L'amiral Pike.
Moi, je veux... non, moi, je veux peut-être Jean-Luc Picard.
Sacré.
Ben, quoi, il doit bien faire des visites à Space Line, là, une fois de temps en temps.
Ah, t'as trop de cheveux pour ça.
Ah, ça s'arrange, ça.
Oh my god. Donc, pour ceux qui s'intéressent, donc c'est disponible sur Roll20. Outre cela, donc, on a parlé du fameux film de Quentin Tarantino de Star Trek. Ben, il y a une personne qui s'ajoute dans la liste des personnes intéressées. Et c'est nul autre que William Shatner.
Ben, ouais, mais Shatner, il est prêt à faire tout pour venir.
Ouais, il regrette sa décision.
Puis il va pas. C'est ça, parce que je sais qu'avec les. Quand ils ont fait le premier reboot, ils voulaient. Ils trouvaient ça vraiment plate qu'ils soient pas dedans.
Ouais, mais. Sais-tu pourquoi
alors,
il y avait.
Il alors
avait
que Nimoy été... l'était.
Ouais, mais c'est parce que lui, il a dit je ne fais pas de caméo.
Ouais, c'était, ben c'est ça.
C'était la seule affaire qu'il avait pu vraiment faire. C'était vraiment un caméo en tant que Kirk. Parce que c'était une scène où c'était genre un message holographique où que Kirk souhaitait bon anniversaire à Spock, là. Mais tu sais, en même temps.
Je viens de penser un Kirk zombie ou vampire.
Non, pas là-dedans, s'il te plaît. Pas ça.
Ah non, c'est plus Rodriguez qui fait des affaires de même.
Ouais, ouais.
Et
ouais.
Bon, c'est pas Tarantino. Non,
c'est ouais, ben, ça dépend. Il y a un de ces films que la première partie, on se donne. Ouais. C'est un film ben normal. Yeah. L'autre demi-partie, ils combattent des vampires.
C'est,
je pense que c'est la nuit la plus longue.
Ouais,
c'est From
ouais, c'est dans la nuit la plus longue. Mais c'est pas Tarantino, vraiment. C'est Robert Rodriguez qui l'a fait,
ouais.
Celui-là.
Ouais, c'est. Mais Tarantino, ben, je sais qu'il est acteur là-dedans, mais je pensais qu'il l'avait aussi dirigé.
Non, mais c'est deux chums, alors. Ils sont ouais, pratiquement dans, tout le temps dans leur film, alors.
Ok. Ouais, une gang. Il me semble jouer l'Enterprise qui chasse. Du vampire. Ben, on a bien eu Abraham Lincoln qui a chassé le vampire aussi, là.
Ouais.
Le vampire, le zombie.
En fait, on a joué Abraham Lincoln dans Star Trek, point.
En plus. Que... Ça fait que tout est possible.
Abraham Lincoln avec notre ami Einstein. Et... Il chasse des zombies. Ce serait trop hot. Ben, on déconne. On continue
ouais,
de sérieux.
Ouais, ouais, ouais. Ben, sérieux. Ouais, on... Wow, là, hein? Dom, toi qui as reçu ton deuxième issue de Star Trek Discovery, The Light of Kalis, est-ce que tu as le temps de le lire un oui. petit peu?
En fait, non, c'est ça, j'ai eu la chance, c'est ma femme qui est allée chercher au comic book store, fait que okay. J'ai quand même une gentille demoiselle. Mais je
merci, Mireille.
Oui, merci, un gros merci, parce que c'est ça, moi, je travaillais deux jours, fait que t'es allée le chercher. Bon. Mais je l'ai entre les mains, j'aime bien la couverture, puis ça s'est arrêté là. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore lu. Je vais probablement me mettre à le lire probablement demain.
Bon.
Si je suis capable de. Si on... Ou peut-être ce soir, sauf qu'il n'est pas trop tard.
Bon. Parce que IDW a annoncé une nouvelle série reliée à Star Trek Discovery. Ça va être la deuxième série. Donc, avec vos personnages favoris de la série tout cassé de CBS All Access. Donc,
quoi, Landry va être là?
Peut-être, parce que ça s'appelait Star Trek Discovery Succession. Et ça va être écrit par les écrivains réguliers Mike Johnson et Kristen Byer. Kristen Byer qui est sur l'équipe de script de Star Trek Discovery. Et l'art va être fait par Angel Hernandez. Et il confirme que ça va être une série qui se passe dans l'univers miroir. Donc, j'imagine que ça va probablement se passer après les événements, peut-être vu que ça s'appelle Succession, puis vu ce qu'on a vu cette semaine, ça ferait peut-être un peu de sens, ou ce serait pour expliquer le passer du bâton en de ou le passer du couteau, le passer du couteau dans le dos de Hoshi Sato à l'empereur Georgiou. On sait
Georgiou.
Pas. Donc, ça peut être un comme l'autre. Mais c'est ça. Donc, c'est dans l'univers miroir et ça s'appelle Star Trek Succession. Donc, allez réserver ça dans votre comic book shop. Ça va être lancé en avril prochain, donc dans 2 mois.
Donc,
La réplique de l'épée. Oh.
Ouais. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter là, une réplique de. Ben, pas la réplique, la prop originale de l'épée a été faite par Omega Artworks. Et il y a du détail là-dedans. Là. C'est même le voyons. J'allais dire le holster, là, mais le. Comment dit ça en français? Le fourreau. Il y a un petit espace, tu sais, pour creuser pour le bout qui dépasse de l'épée, là, où est-ce que tu as le logo de l'Empire terrien, là. Ça a l'air que Michel Yeoh a eu son mot à dire dans la confection de cette épée-là, donc...
Ouais, surtout que ça ressemble vraiment à une épée chinoise, alors...
Ouais.
Elle était vraiment belle. Sérieusement, si je voyais un prix, je pense que je faisais une commande. C'était trop beau.
Donc, allez voir, vous allez voir sur @OmegaArtworks sur Twitter. Ils ont passé l'image. J'avais retweeté aussi là, sur... Acte parlons Trek, vous pouvez voir ça sur notre Twitter. Quelqu'un que je suis sur Facebook, sur Twitter, s'appelle Larry Nemechek. Donc, ceux qui ne connaissent pas Larry, c'est quelqu'un
Mr. Cutterhole.
C'est quelqu'un qui... C'est un peu un documentaliste de Star Trek. C'est quelqu'un qui il s'est fait connaître à l'époque pour avoir écrit le Star Trek The Next Generation Companion Guide, puis écrit plusieurs autres documents. Donc, il écrit vraiment de la non-fiction à propos de la production de Star Trek. Donc, il a commencé un nouveau podcast cette semaine qui s'appelle The Trek Files. Pour les gens qui sont comme moi, qui sont avares d'informations derrière la scène, puis de voir comment ça se passait au niveau de la production, c'est un petit podcast de 15 minutes qui va être produit en collaboration avec le Roddenberry Network et qui va nous montrer des documents, plusieurs qui n'ont jamais été vus jusqu'auparavant, qui proviennent de l'archive personnelle de Gene Roddenberry. Donc, il va y avoir plusieurs invités qui vont venir parler de ces documents-là et faire part de leur expérience. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ça risque d'être fort intéressant, donc j'ai hâte, j'ai pas encore été écouter ça, mais je vais aller faire ça très bientôt cette semaine. Et on avait parlé un petit peu la semaine dernière, donc ils ont annoncé la liste des auteurs qui allaient être présents au Star Trek Original Series 7 Tour. Donc les auteurs vont être notre ami Dave Gallanter, David R. George III, Robert Greenberger, si je me rappelle bien, lui est un éditeur ou a été éditeur au niveau des comics chez DC Comics. Keith DeCandido et le légendaire Peter David. Ceux qui ne connaissent pas Peter David, surtout au niveau de Star Trek, ils sont connus pour avoir écrit la suite de romans et de BD Star Trek New Frontiers. Il a écrit aussi Imzadi, il est surtout un de ses grands titres aussi. Il a aussi écrit une série qui est un peu, je pourrais pas le légendaire au Canada, mais quand même, ceux qui ont connu la série, ça s'appelle en anglais Space Cases, et qui dans laquelle on peut voir une très jeune Jewel State. Et ceux qui sont fans de Power Rangers, le Black Power Ranger était aussi... membre de l'équipage de Space Cases, donc ça avait duré 2 saisons sur Nickelodeon. C'est une série qui était produite au Canada. Je vous recommande d'aller googler ça. C'était drôle. C'est un peu un Star Trek pour enfants. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à vous, les gars, là.
Non.
Ouais, non, je pense que c'était pas mal plus dans mon époque que la vôtre.
Ouais, c'est sûr d'être nous de vieux quand elle y est.
Ouais, c'est ça, vous êtes vieux.
Il a raison.
Non. Moi, je suis pas vieux.
Pour ceux qui souhaitent y assister, donc les visiteurs seront rejoints dans le tour par les auteurs. On sait, on va avoir l'occasion d'avoir quelques présentations candides ainsi qu'un Q&A, donc une session de questions-réponses. Vous aurez aussi la possibilité de faire autographier et d'acheter leurs livres sur place. Donc, c'est vraiment juste le coût d'un billet normal, aucun frais supplémentaire, simplement réserver un billet en date du 23 juin 2018 au Star Trek Original Series 7 Tour.
Moi, je suis triste de ne pas aller prendre une crème glacée avec Day.
C'est correct. On, ben, au moins, il va falloir, on va saouler un petit peu Dom, puis on va le présenter à Dave.
Tu me demandes sa blonde doit être là.
Probablement. Donc, c'est ça. Ben, justement, je suis en train de lire. J'ai comme dévoré plusieurs livres de Star Trek au cours des dernières semaines avec mon e-book. Je suis rendu dans un des livres de Keith de Candido. Là. C'est le quatrième livre dans une série. Les trois premiers livres ont été écrits par David Mack. C'est une série qui s'appelait Avatar. Une série de livres qui s'appelle Avatar qui deal avec le Borg et qui deal définitivement avec le Borg. Et j'étais content parce que je trouve que c'est quelque chose qui était un petit peu trop surutilisé dans plusieurs romans, même surtout dans Star Trek Voyager. Donc je suis content de voir qu'ils ont réussi à s'en trouver une manière de s'en débarrasser, au moins au niveau des romans. Et donc, le livre de Keith deal avec l'après-Borg. Ça a été très dévastateur, plusieurs planètes dévastées. Une très bonne lecture. Donc, on avait dit aussi Colm Meaney. Chief O'Brien a rejoint la liste des invités de Star Trek Las Vegas 2018. Peut-être en vue de la célébration du 25e anniversaire de Deep Space Nine qui serait cette année. Donc, j'imagine qu'on va droit à un cast complet. Est-ce que j'ose l'espérer? Parce que ce serait le fun, on s'entend. Vous, est-ce que vous avez des gens que vous souhaitez voir en particulier là-bas?
À date, ceux que je veux pas mal voir sont presque tous là.
Bon.
J'aimerais voir Cisco, mais...
Ouais, il y a en fait des conventions.
Ouais, mais rare.
Ouais, c'est on dit ça. Mais t'as plus de chances qu'il soit à Vegas que bien d'autres places.
Ah, c'est sûr. Mais là, juste le fait que O'Brien va être là.
Ouais.
Je suis heureux.
Moi aussi. Parce que O'Brien, on va le faire souffrir!
Moi, le but, c'est avoir la chance de faire le plus d'entrevues possible.
Ouais.
Même si c'est toi qui vas les faire parce que moi je parle pas vraiment anglais.
Honnêtement, question de régler tout de suite nos attentes. Je pense pas qu'on fasse d'entrevue avec les acteurs en tant que tel.
Ben, je pense pas non plus, mais.
Mais écoute,
on sait jamais.
On sait jamais.
Entre deux bières.
Peut-être
pas toute la gang.
C'est ça. J'aurais peut-être plus de chance avec des gens au niveau de la production. Donc si je peux comme jouer de mes contacts puis essayer d'avoir comme Ira Steven Bear ou Ted Sullivan ou quelqu'un comme ça, je pourrais être
pas intéressé. Sérieusement, je serais beaucoup plus ceux qui sont en coulisses.
Ouais, ben je pense que c'est eux autres qui ont les choses les plus croquantes, les plus intéressantes à dire personnellement. Ça, c'est...
Oui, parce que pour eux, d'après moi, c'est pas juste un job ou un personnage parmi tant d'autres. C'est leur un travail d'une vie.
C'est ça exactement, là.
C'est l'aboutissement, eux. C'est pas comme les acteurs qui sont... Ils font une scène après l'autre, puis c'est fini.
C'est
ceux derrière, ils travaillent encore aussi fort, sinon plus,
ouais,
que ceux devant la caméra.
Puis ceux qui sont derrière la caméra sont encore plus passionnés que ceux qui sont devant aussi, là.
Juste cet été, avec les hauts couleurs, puis notre ami... c'était incroyable, là. Doug Gregson,
qui étaient très fiers de ce qu'ils ont fait, de la pierre qu'ils ont amenée à l'univers de Star Trek. Puis...
Ouais. En effet. Donc, ça va être à voir. Donc, je vais essayer. Je vais essayer de refaire des entrevues comme du monde avec. Probablement que David Mack et Dayton Ward vont être présents. Donc, on pourrait essayer de refaire des bonnes entrevues avec eux autres. Vu qu'on a un bon équipement audio ce coup-ci, qu'on n'aura pas le pauvre Yann tout seul avec son iPhone.
Il faut vraiment essayer d'avoir, Five-Year Mission.
Ouais, mais moi, tu disais qu'il allait être là, mais moi, j'ai vu cette semaine, Fark disait qu'il allait pas être là.
Ils ont changé.
Ouais, ça se peut. Fait que on va peut-être être pogné.
On va prendre The Roddenberrys d'abord.
The Roddenberrys, puis il y a The Sons of Kirk avec Gary Graham. Donc, il y en a une couple d'autres là, dont je suis
convaincu. Ah, mais tu demandais qui j'aimerais voir. J'aimerais bien voir le fils de Nimoy.
Ah, Adam Nimoy?
Oh. Adam Nimoy, j'aimerais bien ça le voir.
Hmm. Ouais, en effet, pourrait être une très belle rencontre. Sinon, ben c'est encore la saison des prix, des nominations. Donc, ce coup-ci, c'est vraiment « behind the scenes », cette nomination-là. CBS Studios est nominé pour le Maxwell Weinberg Publicist Showmanship Television Award donné par la communauté, la Guilde internationale des cinématographes. Donc, c'est au niveau de la publicité, du PR. Donc, c'est maintenant Kristen Hall qui a été nommée pour son travail au niveau du PR, donc des relations publiques avec CBS et Star Trek Discovery. Donc, sans elle, donc on s'entend qu'il y avait une montagne devant eux autres là, de convaincre les gens de s'abonner à leur, les gens, en tout cas les Américains, de s'abonner à leur service. Donc c'est une grande montagne à monter. Je pense qu'ils l'ont bien faite. C'est encore rough. Il y a toujours des gens très rébarbatifs, mais il va toujours en avoir. Mais non. Fait que moi, félicitations à Mme Kristen Hall. Et un petit dernier doudade, donc, les fans d'Épinglette, donc, QMX a lancé cette semaine un badge Magnetic Mirror Universe, donc de l'univers miroir, basé sur la BD Shattered Mirrors.
Non, c'est Broken Mirror.
Broken Mirror, pardonne-moi.
Oui, donc, c'est ça, ouais, c'est l'univers miroir, mais de TNG.
De TNG, donc bande dessinée que ça a l'air, faut vraiment que je lise à cette heure.
Oui, ben moi j'ai lu le premier numéro, ce qui explique l'origine de Data, là.
Ouais.
Puis c'est juste. C'est super. C'est vraiment, là, tu le vois, là, on a toute l'image du Data qui veut devenir humain.
OK.
Ben là, c'est l'inverse. C'est du Data loyal. Mais là, ils ont comme tout perverti. C'est tous ses bons côtés.
Ah, OK.
Pour l'univers miroir, c'est vraiment, non, c'est super. Là, c'est... Puis toi, évidemment, toi aussi, tu vois Jordy aussi, il est un peu plus badass qu'il est dans TNG. Puis tout, c'est, non, c'est, ils ont fait quelque chose de pas pire.
Bon. Ben c'est bon à savoir, ça. Donc, ça fait pas mal le tour des petites nouvelles cette semaine. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ou...
T'avais-tu la semaine dernière, t'as parlé de Doug Jones qui était en nomination?
Ah, Doug Jones, non, ça, j'avais pas... Je m'en rappelle pas.
Me semble que Doug Jones a été félicité par Stamets.
Ah, je pense que c'est ben, pour son le film The Shape of Water. Là, qui a,
ah, OK. Je pensais qu'il était en nomination. Moi, ouais, OK, c'est pour ça. Non. Hein.
Si Doug Jones avait été nominé aux Oscars, je pense qu'on l'aurait su. Là.
Ouais, mais je savais que c'était pas aux Oscars, mais je savais pas c'était pour. Je savais que c'était pas Discovery, mais je savais que c'était pas quelque chose d'autre.
Là. OK. Mais je sais que le film a ramassé une bonne quantité de nominations, donc. C'est bon pour M. Jones, c'est bon.
Ouais.
Ben, tu sais, ça du Game Show del Toro.
Ouais, Guillermo
del Toro. C'est rarement mauvais, là.
C'est ça.
donc, ça fait pas mal le tour des petites nouvelles. On va y aller avec une petite chanson donc de nos amis de Five Year Mission. Basé sur l'épisode The Apple. Et on se revoit de l'autre côté de la pause pour parler de l'épisode de Vaulting Ambition. Plein de choses juteuses qui se sont passées cette semaine.
Ouais.
Et délicieuses aussi.
Délicieuses, ouais.
Donc, on se rejoint de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Parlons Trek sur les ondes de puissance maximale.
All I stand before you here to feed you and rejoice. I am your ears, I am your eyes, I am your voice. Boy, you put the fruit up on the tree, you care for all, you cause the sunshine, cause the rainfall. All I've been with you for such a long time, since the dim time up to now. Never steer me wrong, but I do not beg the lightning. maybe life is something more. Tempted by life of something else. Oh, 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 yeah. How can a ship really break away? Much I don't know, but if we do have to stay, what we need. We will learn to build, we'll learn to think, we'll learn to work, yeah, for ourselves. It's what it means now to be free. And I thank you for all the days that came before now, but everything has changed. All right. Make our own way. Hey, our own way. Hey, our own way. Hey, our own way.
Et vous êtes écoutés. Marc, The Five-Year Mission.
Ah, t'avais pas arrêté?
J'avais pas fermé ton micro, ça a de l'air.
Alors, une chance que j'ai pas dit de niaiserie pour une fois.
Ben non, mais t'es garde pour le quand on est en onde, c'est pour ça.
Ouais, ouais, donc, c'est
pour ceux qui écoutent en format MP3, je vais probablement couper ça au montage, donc je m'excuse. Mais vous n'avez pas manqué grand-chose. Donc, cette semaine, un épisode ambitieux.
Donc, oui, très ambitieux.
On parle ici de l'épisode.
Ah, on continue, j'avais rien à dire. Ça. Ah.
Donc, Vaulting Ambition. Donc, on continue dans l'univers miroir. On commence à résoudre des...
Avoir des réponses à des questions.
Ouais,
on a une méchante réponse à la fin.
Ouais, mais je vais revenir à une question que je vous ai posée il y a deux semaines. Est-ce que vous êtes satisfait? Comment dire? Est-ce que vous avez l'impression que si c'était une mission régulière, normale, ce n'était pas Star Trek, que les twists auraient été moins prévisibles? T'sais, sans avoir une armée de Trekkies avec 50 ans d'histoire en arrière, pour analyser chaque point d'information, puis est-ce que vous avez été...
Ben avec aucun point de référence. Moi, je crois que ça aurait été aucunement prévisible si on avait 100 points de repère.
Ouais.
Parce que comme par exemple, l'Orca qui est de l'univers miroir, ben, il y en a beaucoup qui ont pointé, ben là, les angles d'arrière dans son bureau, ça ressemble pas mal à l'univers miroir qu'on avait vu dans l'Enterprise, qui avait le shotgun qui avait tiré... Le premier Vulcain.
Ouais.
T'sais, à faire des liens comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, les auteurs ont voulu les faire aussi pour nous faire réfléchir, puis faire des liens, puis dire faire preuve comme quoi, oui, ça rentre dans la lignée de tout ce qui a déjà été dit et écrit sur Star Trek. Mais si on prend juste la série tout seul, d'après moi, ça n'aurait pas été prévisible.
Non, ouais, pas aussi prévisible que ça.
Ouais, pas de masse.
Mais s'il aurait monté les épisodes à peu près comme DS9 dans les dernières saisons, où ce que tu avais l'histoire parallèle, l'histoire ouais. en continu, ou les petites histoires, oui, j'avoue que là, encore là, on n'aurait peut-être pas vu la différence, ou voir ceux qui analysent comme des malades, là, qui n'ont pas d'autre chose à faire que ça. Et chialer surtout.
On salue nos amis de Trekyard, by the way. Eux autres, ils se font un plaisir d'analyser sur chaque couture, chaque image, chaque référence.
Tous les vaisseaux à la semaine près, là.
Oui. Donc Lorca, en effet, provient de l'univers miroir. Donc, plusieurs l'avaient collé d'avance. C'est pas surprenant. C'était soit ça ou genre Section 31, quelque chose.
Ouais, mais je suis tout de même déçu.
Je préfère l'univers miroir à Section 31. Je trouve que Section 31, après la façon que les fans traitent ça, ils traitent ça comme si ça faisait partie de la Fédération, mais non, c'est totalement séparé. C'est quelque chose de rogue. C'est rien de visible. Oui. Donc, il pourrait pas avoir de vaisseau Section 31.
Non, parce que c'est les Black Ops.
C'est ça.
Que, s'ils sont pognés, la Fédération va jamais dire.
C'est des Black Ops, là. C'est comme...
C'est ça, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est comme la A-Team. T'as ouais, besoin d'aide, puis tu veux faire une job sale, ben, tu le fais faire par eux autres.
Par Barracuda.
Oui. Exactement, tu sais.
Mais, ouais. Mais comme je dis, c'est ça. C'est une entité entièrement indépendante, tout ça. Fait que c'est sûr, il n'y aurait pas leur place sur un vaisseau fédéré comme ça, même si c'est une section à part, quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis content qu'on soit rentré plus dans l'univers miroir par rapport à ça pour expliquer le comportement de Lorca.
Oui, mais je suis quand même déçu parce que c'était le premier capitaine du Prime Universe qui avait du relief.
Ouais.
Ben dans le sens qu'il il était pas parfait, il était post-traumatique, mais...
Ouais, ben c'est ça, mais c'est que les deux personnages post-traumatiques qu'on a eus, les deux, ils ont eu quelque chose de croche avec, donc Vok qui était un Klingon modifié.
Ouais, mais encore là, c'est ça, c'est Vok. Ben Tyler, c'est pas vraiment Vok, il y a comme eu plus un transfert de l'esprit de Vok.
Ouais.
C'est un
ouais.
peu comme les Vulcains font pour à la fin de leur vie, comme que Spock a fait avec McCoy.
Ouais.
Moi, je le vois plus. C'est plus ça. Fait que Tyler, c'est Tyler, mais avec l'esprit de Vok.
Ouais.
C'est ça.
Mais... Il y a comme deux êtres dans le même corps.
Mais c'est ça, mais en même temps, comme je disais, c'est juste que les deux personnages qui ont des post-traumatiques, ben les deux, ils ont une twist. C'est pas du syndrome post-traumatique naturel. Là. Les deux, ils ont...
Ben, ils ont une raison pour être de même.
C'est ça, exactement.
On serait foqué à moins que ça. Là,
ouais, non, ça, c'est ça, je peux te le confirmer.
Ça m'a presque fait penser à l'épisode de Black Mirror. Ouais. L'épisode où ce qu'il est dans la tête, là, où, dans le musée. Là.
Dans le musée, je me rappelle plus de ça. Là. Je sais pas si je l'ai vu.
C'est-tu? En tout cas, ils sont dans un musée de l'horreur ou des, okay. Des prisonniers. Puis là, le gars, il explique des affaires où il y a un partage de... La femme meurt, puis le gars veut pas que sa femme meure en réalité, mais puis il dit « Tu veux-tu transférer son esprit dans la partie de ton cerveau que tu n'utilises pas? » Parce qu'on utilise 20% de notre cerveau. Là. Ah, puis là, il y a le conflit de...
Ah, ok, je vais checker ça. Ça doit être
la quatrième, je pense, la dernière saison.
Ah, okay, c'est peut-être pour ça. Je l'ai pas encore vu, moi, celui-là.
C'est pour ça que je vais pas trop faire de détails, je vais pas spoiler, mais ça ressemble pas mal à ça. Là.
si on prend l'épisode à partir du début, donc on part directement du point ce qu'on avait quitté l'autre épisode. Donc, pas Tyler, mon Dieu. Burnham qui va rejoindre l'Empereur, c'est son verso personnel. Premièrement, un gros shout-out à l'équipe parce qu'ils ont donné une estimation de distance et le, la vie, ils ont dit, et le temps que ça a pris pour se rendre là en Warp 1 était exactement le temps de la conversation qu'il y a eu dans la navette. Donc, ça a duré 62 secondes. Ils sont rendus exactement à peu près où ce que ils se sont rendus en vitesse Warp 1. Donc, un beau petit shout-out à l'équipe de production pour ça. Ça a été bien fait. Donc, les informations que Burnham a ramassé n'ont pas servi à grand chose parce que la plupart des informations ont été rédactées. Et là, on confronte l'empereur directement et on voit Michelle Yeoh dans toute sa splendeur. Je dois l'admettre. Un beau retour. C'était j'ai été très content. Autant qu'on était déçus de la voir mourir dans Battle of the Binary Stars, que là, j'espère qu'ils la tueront pas, mais en même temps...
C'est pas ça marche l'Empire, hein?
La relation quand même avec Michael est quand même assez ambiguë.
Ouais, non, c'est ça. Une relation, on s'entend...
qui frôle l'inceste quasiment, là, on dirait. Là.
Ouais.
Elle l'a adoptée comme sa fille, mais on dirait qu'elle voudrait un petit peu. Ils ont peut-être eu un petit peu plus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est quand même ambigu comme relation.
Ouais. Donc, on apprend que le Burnham de l'univers miroir était peut-être aussi traître et aurait aidé Lorca à s'échapper. Donc, c'est un peu chien de Lorca de l'avoir amené là. En sachant très bien ce qui allait arriver. Fait que j'ai l'impression... Je sais pas si... Mais en même temps, ça me refait penser à la semaine dernière quand que Burnham l'avait comme... Il avait parlé, bon, faut que je descende sur la planète pour aider les aliens à se sauver, tout ça. Puis lui, il a dit, ben, ouais. Non, faut que tu les extermines pareil, là. Puis, tu sais, mais en même temps, tu sais... On pensait, c'est la torture qui fait dire ça, mais finalement, non, là. Moi, j'avais espoir que Lorca Miroir était un rebelle, mais non, c'est vraiment juste quelqu'un qui veut la place de l'empereur. C'est quelque chose de différent, là. Donc, il n'y a aucune sympathie pour les extraterrestres. C'est vraiment juste...
Il veut que du power.
C'est ça, il veut vraiment juste le pouvoir. Donc, ça explique ça. Donc, la scène du lunch avec l'empereur, est-ce que ça vous a...
Moi, qu'est-ce que c'est arrivé qu'il prend le ganglion du Kelpien? J'ai fait... Mais sauf que quand tu fais la relation, les Klingons ont mangé Georgiou.
Ouais.
Puis le monde se sont plaints. Là, le monde s'est pas trop plaint qu'ils ont mangé le ganglion d'un Kelpien.
En effet, écoute, comme ils disent en anglais, they are bred for livestock, donc c'est techniquement des animaux de ferme avec dotés de sentience, là. Donc,
c'est ça.
C'est quand même quelque chose, là. Après tout ça, on a quelque chose qui m'a quasiment fait brailler, on a Stamets qui est confronté...
Ah, sainte, ouais.
Qui est littéralement... t'as Stamets qui est confronté à Stamets, qui est vraiment intéressant. La joke que son mirror lui fait à propos de « Ah, t'es... Dieu est pas contente », puis le genre « Ah, je me fous de ta gueule ». Donc, quand on peut être un trou de cul dans tous les univers...
Mais j'avoue que quand il est confronté avec
Culber, Cruz,
c'est quelque chose.
C'est à savoir, est-ce que c'est le vrai Cruz ou c'est une image qui a été générée, tu sais, qui est faite par... Est-ce que l'esprit de Culber est vraiment comme dans l'espace missilien?
Ou c'est... Moi, ça ne saute pas à l'air, là.
Ouais, ou c'est vraiment juste une projection du subconscient de... Ou une projection du réseau. Peut-être une projection du réseau mycélien. Comme
de défense,
mais je suis pas sûr que genre l'esprit de Culber en tant que tel physiquement soit là-dedans. Mais en même temps, c'est ça. Donc c'est une très très belle scène. J'ai hâte d'avoir la bande sonore de chapitre 2 pour entendre l'opéra castellien qui fait jouer celui qui déteste.
Ouais. L'autre déteste, pas lui.
Ouais, c'est ça que. Ouais, ben que Stamets déteste, mais que Culber aime. C'était ça la joke. Non, c'est ça. Mais cette scène-là, écoute, sérieusement, tu sais, tant qu'à moi, personnellement, ça pardonne pas le fait d'avoir tué Culber. Mais en même temps, je comprends ce qu'il voulait faire avec le personnage. En le tuant, c'est plate, mais en même temps, ça a donné une très belle scène. À savoir, ça lui a permis de sortir du réseau mycélien par la suite et probablement d'éviter de se faire avoir. J'ai pas l'impression que son double avait des bonnes intentions. Là,
non, ben, je pense qu'ils l'ont. C'est Saru qui le dit à la fin quand ils ont étudié son double, c'est qu'il les a manipulés pour son propre bien, le sport et compagnie.
Ouais, ben non, c'est Stamets lui-même qui dit. Non, c'est pas Stamets, c'est Culber. C'est pas Saru qui dit, c'est Culber okay. qui
c'est dit. C'est ça parce que. Puis c'est clairement, puis on s'entend que le Stamets du miroir, il va vers l'autre, mais Stamets juste pour pas s'en sortir.
Ouais.
Il veut pas sauver l'autre, c'est lui qui veut sauver. Mm. En bon terrain qu'il est, là. C'est...
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, et on retrouve donc sa forêt de champignons mortes à bord du Discovery, donc c'est vraiment il y a une maladie qui se propage, probablement causée par le méchant Stamets. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ils vont résoudre ça la semaine prochaine. Ben, en fait, on prend les paris. Qui est-ce qui pense dans vous autres qui vont retourner dans le Prime Universe la semaine prochaine?
Ça serait peut-être trop tôt.
Mmh. Je trouve que c'est possible qu'on soit encore dans le miroir pour la deuxième saison.
Oh!
Okay. Ouais, mais ils sont supposés de régler la guerre contre les Klingons avant.
Ouais, c'est
avec
ça.
La première saison, c'est pour ça. Fait qu'ils n'ont pas le choix de revenir dans l'univers Prime, mais
à au prochain épisode, fasse.
ça serait trop tôt. Ou, tu sais, ils vont juste pas mentionner la fin de la guerre avec les Klingons, puis ils poursuivent dans l'univers miroir.
Moi aussi. Mais il faut se rappeler une chose. L'épisode de la semaine prochaine, normalement, aurait été la fin de la saison. Donc, il faut se demander à quel point est-ce que les auteurs ont été avertis d'avance qu'il allait avoir deux épisodes supplémentaires. Ben, c'est ça qui... C'est ça que je me demande, là. Est-ce qu'ils vont comme juste prendre un petit peu plus leur temps pour revenir comme dans l'épisode l'avant-dernier épisode puis résoudre la guerre dans le dernier épisode? En tout cas, je suis vraiment curieux parce que c'est le genre de truc que moi je suis curieux de savoir. C'est comme le processus de comment ils ont, tu sais, bon, t'avais l'idée initiale de Brian Fuller, 13 épisodes. Puis ensuite, là, c'était supposé être une saison vraiment juste Discovery, puis ensuite tu passerais à d'autres choses, mais là finalement il est obligé de rester avec Discovery, fait que là le plan pour transformer ça de série unique à une série qui va se passer entièrement sur le Discovery, donc il y a plusieurs changements qui ont dû se faire au concept au travers du développement de la première saison. Donc ben, j'ai vraiment, tu sais, genre dans 5-6 ans ou dans un petit peu plus là, quand que les gens de la production vont être un petit peu plus lousses puis un petit peu moins restreints par probablement les contrats puis la promotion de Star Trek Discovery, ce qu'ils vont voir comme se lâcher un petit peu plus lousse là. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé en arrière de toute cette production là.
Oui, surtout parce qu'en plus que comme la première saison a vraiment été chaotique au niveau de la production là, c'est
ouais,
toutes les revirements, ils ont repoussé date après date la première. Ça. Tout, fait que, on va savoir la vraie vérité, ou plutôt au moins les versions de chacun.
Ouais,
ça peut être intéressant. Ça pourrait vraiment être aussi intéressant que le Chaos on the Bridge.
Ouais.
C'est...
Peut-être un peu moins. J'ai l'impression que ce serait peut-être un peu moins chaotique. J'ai l'impression que parce que si on regarde le Chaos on the Bridge, où que, t'avais comme l'avocat de Gene Roddenberry qui allait mettre son nez dans les scripts. Puis que, écoute, il y a les auteurs, les gens qui avaient travaillé avec Star Trek depuis comme la série originale qui ont claqué la porte. Là, je pense à DC Fontana et David Gerald qui ont juste fait comme mange la merde puis qui ont comme parti de leur côté parce que ils en pouvaient plus. Là. Peut-être, tu sais, j'aimerais ça, c'est peut-être une notch, une coche là, comme en dessous de ça. Pas tout à fait saison 1-2 de Next Generation, mais comme moi, un petit peu. Ça se rapproche quand même. Là. Donc, pour en revenir à nos moutons ou à nos kelpiens. Donc le troisième fil conducteur de cet épisode-là était Vok Tyler ou comme je l'appelle Tyler Vok ou Vok Tyler non j'appelle Tyler Vok je pense que je l'appelle Ashvok, c'est vrai, excuse-moi, Ashvok. Donc, Ashvok, disons que Saru a pas niaisé avec la POC. Je suis un peu... C'est quand même bien pris. Tu sais, j'ai l'impression que Saru représente l'aiguille, la boussole morale de l'équipage. Je sais pas pour vous, là.
Oui, ben il est le plus posé de toute la gang. Si on veut, il s'appuie sur les règles de Starfleet pour tout le temps agir. Il est pas enclin à la colère, il est pas victime de ses émotions. Dans le fond, c'est vraiment dans toutes les séries, il y en a tout le temps eu un qui est un peu plus posé, pour Discovery, c'est justement Saru qui représente aussi les idéaux de Starfleet.
Ouais. Donc, fait que c'est ça. Donc, il a vraiment utilisé la compassion pour essayer de résoudre le problème, de sauver un des deux. À savoir, c'est qui a survécu.
C'est bonne ça, question. Et à quel prix? Parce que, veux pas, je me dis, là, c'était deux esprits qui se confrontaient,
ouais.
Qui combattaient pour un même corps. C'est sûr que ça va laisser, même si, peu importe lequel qui va vaincre et qui va gagner, ça va laisser des séquelles psychologiques certains.
Ouais, non, ça c'est clair. Mais c'est sûr que t'as, Laurel qui a fait le fameux cri de mort Klingon pour avertir Stovokor qu'un guerrier venait les rejoindre.
S'en venait, ouais.
Mais est-ce que c'était juste une parure? Est-ce qu'elle pense vraiment qu'il est mort? Ou est-ce qu'il est... Même si elle pense qu'il est mort, est-ce qu'il est peut-être encore là dans le coin de sa pensée? Ouais, est-ce qu'elle ça, a un... Parce que, tu sais, Saru a vraiment utilisé la compassion. Donc, je pense que c'est peut-être une référence à l'euthanasie rendue là. Je sais pas pour vous autres.
Ouais, mais sauf qu'elle utilise quand même du matériel qui est de la Fédération, qui n'est pas un instrument qui a été fait pour ce qui est arrivé à Taylor. Alors, selon moi, peut-être qu'elle pense vraiment qu'elle l'a éliminé, mais il y a des chances qu'il revienne.
OK. Peut-être aussi, j'ai pas l'impression qu'on l'a vu la dernière voix à savoir...
Peut-être un plus posé, peut-être.
Ouais, peut-être. En tout cas, je sais pas. Ça, c'est un autre mystère que j'espère qu'il va être résolu d'ici ce temps-là. Sinon, quelque chose qui m'a vraiment accroché, c'est la manière que l'empereur s'est dispatché de ces gens qui n'auraient pas dû entendre ce qu'ils ont entendu.
Ils ont tué un peu.
Avec un fidget spinner de la mort. Et oui, les gens de la position, à ce temps-là de la position, les fidget spinners étaient encore populaires. Donc l'idée vient un peu de là. Heureusement ou malheureusement, en tout cas, c'est ça qui est ça.
Mais de la façon qu'elle le dit à l'autre, tu veux vivre? Ramasse les corps, puis je te donne tu vas être le gouverneur d'Andoria.
C'est ça.
Ah oui, pas de trouble.
Ah oui, non mais...
Si t'avais un gouverneur qui était déjà là, on va l'envoyer ailleurs, on va le tuer. Ouais.
Mais ça fait, encore une fois, André m'a fait une belle référence à Warhammer 40 000, ça fait penser à... comment ça s'appelle... L'Inquisition, donc, une fois, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas supposé d'avoir vu, l'Inquisition arrive, puis ils font disparaître
oui,
la personne.
Oui, oui, je me rappelle du film, ouais.
Donc, c'est un peu dans cette veine-là. Je ne sais pas s'il y a une inspiration volontaire de Warhammer. En tout cas, il y a tout le tronc, toute la signature dorée, tout en grandiose. Les 42 noms en latin, les 42 titres en latin de l'empereur, ça fait très Warhammer. Donc,
voilà. Mais moi, j'ai pas vu Enterprise. Je sais pas si quand sont allés dans l'univers, c'était développé comme ça.
Non,
mais j'aime tellement les détails qu'on voit de l'univers miroir. Là. Il y en a énormément.
Ben, t'irais écouter ça. Écoute, t'as pas besoin d'avoir vu la série d'Enterprise pour apprécier ces deux épisodes-là.
Mm-hmm.
Mais
je veux tout écouter en ordre. Je suis rendu à Enterprise. Là.
Bon. Mais non, ça, mais tu sais, je veux dire, oui, ils ont mentionné qu'il y avait un empereur. On l'a jamais vu. On n'a jamais vu le vaisseau de l'empereur, rien. Tu sais, ça finit comme Oshii Sato se déclare empereur est encore sur l'Enterprise. Tu sais, fait que. On sait pas ce qui arrive après ça, tu sais. On voit jamais d'empereur, rien. Mais comme je dis, c'est vraiment ce qui me fait penser à Warhammer, c'est vraiment toute la facture dorée, les titres en latin, l'élimination assez expéditive de gens qui ont des connaissances qu'ils devraient pas avoir. Même la grandeur du vaisseau impérial, le Charon, y a des, tu sais, il est propulsé par un fucking soleil à l'intérieur, là. Ce qui est un peu bizarre pour pour des humains qui sont sensibles à la lumière de faire en sorte que leur vaisseau soit propulsé par une... Je sais pas si ça rapporte la propulsion ou quelque chose avec le power. Peut-être qu'ils vont nous expliquer ça dans des épisodes plus tard, mais si t'es une race qui est sensible à la lumière, t'arranges-toi pour qu'au moins que ton soleil soit couvert, quelque chose qui est de quelque chose d'infinite qui bloque ou qui filtre la lumière. C'est juste un peu cave.
Mais quand Georgiou l'a montré qu'il avait des problèmes avec les yeux, que c'était leur seule différence pratiquement avec nous autres, j'ai fait... Ah, là, c'est là que j'ai allumé avec leur cas. Je me suis dit, si on avait raison.
Il y en a plusieurs qui n'ont pas aimé cette twist-là, mais en même temps, j'ai remarqué, tu sais, moi, personnellement, de ce que je me souviens, il n'y a aucun personnage de l'univers miroir dans la série. Peu importe quand que dans les épisodes précédents de Star Trek où ils ont été dans l'univers miroir, où ce que les personnages de l'univers miroir ont été confrontés à de la lumière naturelle.
Non.
C'est toujours des lumières d'intérieur tamisées ou quand ils allaient sur des Space Nine miroirs, c'est toujours comme sombre. Puis, tu sais. Fait que. Personnellement, oui, c'est une twist qu'ils ont rajouté pour la twist, mais en même temps, ça rajoute un beau petit détail. Là, je veux dire, ça s'explique, ça peut s'expliquer assez facilement de dire, ben écoute, sur Terre, à cause de, que tout le monde, il y avait la grosse guerre nucléaire, ça a affecté les yeux parce que, le ciel était couvert pendant des générations, puis tout ça, ça s'explique, là, tu sais, que les humains, vu qu'il y avait des tendances plus agressives, étaient plus nocturnes que diurnes. Il n'y a rien qui ne peut pas s'expliquer. Tant qu'à moi, à ce niveau-là, ça compte. Ça va pas mettre à contraire quelque chose qui est déjà établi, se rajouter. Mais c'est sûr que c'était pour le bien de la twist, à savoir, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je trouvais ça correct. Je veux que ça a permis d'allumer sur leur cas. Mais en même temps, je sais pas. C'est juste l'histoire du soleil dans le milieu du vaisseau. C'est juste ça qui m'accroche, tu sais. Mais en même temps, si tu regardes, si on regarde attentivement le vaisseau de l'empereur, il y a vraiment une surface à l'intérieur. Une surface qu'on peut voir comme une espèce de jardin. J'ai l'impression que c'est peut-être là que les Kelpiens vont gambader joyeusement en attendant d'être assez grand pour
être mangé
ou servir un des deux. Fait que c'est peut-être que la surface intérieure du vaisseau, c'est vraiment juste une pâture, juste un espace pour cultiver
un pré
pour leur mets favoris.
Un ranch.
Fait que, tu vois, c'est des, les kelpiens là, sont élevés en air relativement libre et non pas dans... Tu sais, c'est pas comme les poulets entassés mais dans une petite cabane. Ouais. Là.
Ils sont bien Kelvin, là. Faut pas trop les stresser, sinon Glanglion, il est trop énervé. Il est trop heureux.
C'est ça. Les Kelpiens sont heureux et gambadent librement jusqu'à ce qu'ils soient mis en servitude et mangés.
Ben oui, mais...
André, pour eux, c'est normal, il n'y a pas de trouble.
André, je m'en vais chier. Ça l'a traumatisé un petit peu plus que moi, je pense.
Ah ouais? Ah, petit ganglion.
Ben, il y a une couple de, mimes que j'ai vu passer cette semaine par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai vu Kelpian Helper.
Oui, cela était bon.
Avec le Saruganoff. Oui. Avec 20% plus de ganglion. Moi, j'ai vraiment hâte que Burnham retourne sur le Discovery. Sur le Discovery et que ce soit pantoute. Ça va pas être bizarre pantoute.
Surtout qu'en plus, si je me trompe pas, quand Georgia lui a demandé de choisir son kelpien, là.
Ouais.
Non, c'est Saru qu'elle a choisi.
Non, Saru.
Non, c'était pas Saru.
Non, Saru était déjà sur le.
Il était sur le Shenzo. Donc,
ok, non, ce que je veux dire,
ils se ressemblent tous.
Ouais, c'est sûr que oui.
J'avoue qu'elle qui a choisi ressemblait le plus à Saru.
C'était le plus petit, je pense, qu'elle a pris. Parce que soit il y avait trois grandeurs différentes, elle a pris le plus petit. Fait que c'était pas lui. Là. On s'attend que Doug Jones fait 6 pieds 2, rajoute.
Ouais, j'avoue, ouais, après coup, c'est vrai. Mais surtout, c'est ça qu'elle l'a choisi comme dans des steakhouse, tu peux choisir ton bœuf. Ouais. Ils vont l'abattre. Mais
dans un restaurant fruit de mer, où est-ce que tu choisis ton mort? Là.
C'est ça.
C'est à peu près la même chose. Donc, moi, ça couvre pas mal l'épisode. écoute, c'est un épisode court, 37 minutes seulement.
Ah, ouais?
Oui. C'était un.
Oui, non, il était vraiment court.
L'épisode. On a eu l'intro la plus longue la semaine dernière. Et là, cette semaine, on a eu l'épisode le plus court à 37 minutes. Donc, on voit que. C'est peut-être pour le. Justement, tu sais, quand on parlait tantôt de comment ils ont découpé leurs épisodes dans l'univers miroir, là. Ça a peut-être rapport à ça aussi, là. C'est peut-être qu'ils vont dire bon, ben, on va couper un petit peu en longueur là pour en rejeter dans l'autre après. En tout cas. Ça reste à voir, donc j'espère juste que ça va pas être une tendance. J'aime ça, des beaux épisodes de 45 minutes. Clos, que tu sais, t'as.
Ben, moi, personnellement, j'aime encore mieux quand c'est quasiment une heure.
Ouais, ça c'était la série originale. Ben, il y avait pas autant de pubs qu'aujourd'hui.
Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais comme aussi c'est fait pour la plateforme Internet, sûr que moi je l'écoute à TV, qu'ils pourraient pas se le permettre.
Non, c'est ça. Mais c'est qu'il y a encore un facteur de publicité télévisée à compter là-dessus, parce que probablement qu'une fois que la série va, ou la première, ou les deux, trois premières saisons vont être finies, ben, ils vont peut-être être capables de vendre ça en syndication par après à d'autres stations de télé. Là. Fait qu'ils ont intérêt à ce que ça garde un format plus ou moins télévisuel. Là.
Oui, c'est clair, ça. C'est...
moi, ça couvre pas mal ce que j'avais à dire sur l'épisode de cette semaine. Donc, ça rouvre beaucoup sur l'épisode de la semaine prochaine, par exemple, parce que là, ça va rasser. Parce que là, les masques sont tombés. Lorca est libre et on va retrouver un personnage qui nous manquait, donc Landry, joué par The Rika Sharma. Donc, l'ancien chef de la sécurité de Discovery qui est mort par tardigrade.
Ouais. Je m'en suis pas encore remis.
Ouais. Je trouve ça un peu dommage que. J'aurais aimé ça que. Parce que je sais pas, mais. Tu sais, la manière qui montre ça, c'est vraiment le vrai Meryl Landry qui va sauver là, la semaine prochaine. C'est-à-dire que celle qui est morte était vraiment trou de cul dans l'univers régulier.
Ouais, j'avoue.
Je sais pas si. En tout cas, je sais pas comment que ça reflète sur quelqu'un, là, mais. Sinon, ben, ça a l'air que la semaine prochaine, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les personnages qu'on voit sur la passerelle du Discovery, ça a l'air que ça va être leur moment de briller. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai voir un petit peu plus de Ariam et de Rice et de Oguesibo, ou quelque chose, je me rappelle plus de son nom, et de Detmer. Donc, j'espère qu'ils ont plus que trois lignes de texte dans cet épisode-là, là, au niveau de la semaine prochaine.
Il va peut-être avoir plus de combats de vaisseaux, peut-être. En effet.
Donc, moi, ça couvre pas mal. Est-ce que j'ai manqué quelque chose, selon vous?
Je ne crois pas. Je pense que tout était bien fait, mon JP.
Comme à l'habitude.
Ouais, c'est bon. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une agréable semaine et une agréable attente.
Et n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle qui est Parlons Trek.
Ouais, ben oui.
Parlons Trek, où est-ce qu'on mange du calpier?
Ouais.
Je suis pas sûr. C'est peut-être un argument en faveur du végétarisme, tout ça. Là.
Mais je vais quand même proposer à une compagnie de faire des ganglions en gummy bear.
Moi, tu peux être certain que si à Vegas, il y a un plat qui s'appelle Kelpien. Moi, je l'essaye.
Ah, c'est clair. Ouais,
du Kelpien ganglion.
Tu connais la joke. Tu connais la joke. Ça va goûter le poulet.
Effectivement.
Tout goûte le poulet quand c'est de la viande extraterrestre.
Ouais.
Les fans de Stargate le savent.
Ça, c'est vrai.
Sur ce, on se quitte sur une petite chanson en allemand. Donc, 50 Jahre Star Trek, donc une chanson célébrant les 50 ans de Star Trek, donc chantée par Captain Gorn and the Tribbles. Donc, sur ça, on vous souhaite une agréable journée, soirée et semaine sur les ondes de puissance maximale. Vous êtes en compagnie de JP, Dom et Marc. Merci les gars.
Ishlibidish.
Ishlibidish. Salut tout le monde.
Bye. Bye.
Star Trek, du wirst 50 Jahre. Happy Birthday und
Kabla.
50 Jahre Sternenreise mit einer Crew, so klug und weise. Heldenhaft mit Stolz und Fleiß. Star Trek, das ist heißer Scheiß. Und wie wirklich jeder weiß, heißt das Raumschiff
Enterprise.
Happy Birthday Star Trek, auf die nächsten 50 Jahre. Alles Gute Star Trek, du bist einfach wunderbar.
Herzlichen Glückwunsch.
Dann brauche ich einen Drink. Vielleicht gibt's auch ein kühles Bierchen, wie auf der Erde. Warum nicht?
50 Jahre bist du alt. Du stehst für Fortschritt und Vielfalt. Für Toleranz und Menschlichkeit. Für eine Zukunft ohne Leid. Und Reisen in die galaktische Ferne. Unbekannte Planeten und Sterne mit
Voyager
und
Deep Space Nine.
Ohne sie könnt ich nicht sein. Happy Birthday Star Trek, auf die nächsten 50 Jahre. Alles Gute Star Trek, du bist einfach wunderbar. Happy Birthday Star Trek, beam uns hoch in die Unendlichkeit. Alles Gute Star Trek, Maximum Warp, wir sind bereit.
Es bestand Brandgefahr.